En moins de 10 ans, c'est la troisième personne qui a été tuée par la police. Peut-être que je suis parano, mais pour moi, il me semble que... Et surtout que c'est des gens issus de l'immigration, en fait. Pourquoi? Beaucoup de questions sans réponse. Et franchement, ces histoires, elles ont passé inaperçues. Et c'est fini tout ça. Il faut en parler, il faut en discuter, et il faut se battre pour ça. Il faut pas avoir peur de... La justice, il faut en parler. Il n'y a pas de petite justice. Voilà quoi. Faut se battre pour ça.
Dans ce quartier de Montigny-en-Goële, la tension a été vive toute l'après-midi. C'est là, à quelques mètres de son domicile, qu'un jeune homme de 25 ans a été abattu en fin de matinée. Le suspect avait été repéré plus tôt lors d'une tentative de braquage d'un hôtel à Cambrai. Lorsque quatre policiers sont arrivés pour l'interpeller, il aurait alors frappé l'un d'eux avec une paire de ciseaux.
C'est à ce moment-là, alors qu'il était frappé, qu'il était à terre, que le policier a fait usage de son arme. Et l'usage de l'arme a été également fait par les deux policiers qui accompagnaient le premier et la personne qui portait des coups, encore une fois avec cette paire de ciseaux, est décédée à la suite de la riposte des fonctionnaires de police qui étaient à ce moment-là en train de se défendre.
Atteint de 3 balles, l'homme est mort rapidement. Pour le voisinage, c'est l'incompréhension. Tous décrivent un jeune homme sans histoire qui venait de s'installer comme auto-entrepreneur dans l'automobile.
Moi, mes voisins, ils le connaissent de vue, toujours le sourire. Et on l'a jamais vu faire la gueule, quoi que ce soit, toujours le sourire.
La famille, elle, dénonce une bavure et une disproportion des moyens utilisés.
Je pense que les moyens qui ont été utilisés ont été dans la démesure. Tout ce qu'on retient, c'est que la police a cru faire son travail en tuant... Un homme tout à fait calme et sans histoire.
Le policier blessé est sorti ce soir de l'hôpital. Son gilet pare-balles lui aurait évité d'être plus grièvement touché. Mais pour ses collègues, pas de doute, il n'a fait que se défendre.
Effectivement, mes collègues sont intervenus vraiment dans le cadre de la légitime défense. Et je pense que si ces coups de feu n'avaient pas été tirés, que l'intégralité physique donc, de ce collègue aurait été remise en question aujourd'hui.
La famille et les proches du jeune homme abattu appellent ce soir au calme.
Tout ce que j'ai à dire aux jeunes, c'est que commencez pas à se mettre dans ce délire-là. C'est tout ce qu'ils cherchent, à nous déstabiliser, justement. Faut que règne la paix.
Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes du décès du jeune homme.
C'était un extrait du journal télévisé de France 3 Nord-Pas-de-Calais le 28 mars 2013. Que s'est-il passé ce jour-là à Montigny-en-Goële dans le bassin minier du Pas-de-Calais? Comment et pourquoi Lao Xin est-il mort? S'agit-il, oui ou non, d'une bavure policière? Ce sont ces questions que se posent les proches de Lao Xin. C'est pour cela qu'ils organisent une manifestation ce mercredi 14 mai à 14h30 devant le tribunal de Béthune. Rencontre avec une partie de la famille de Lao Xin et des personnes qui les soutiennent.
Alors que je me présente, moi c'est Aitomgar Mustafa, je suis le petit frère de Aitomgar Lao Xin.
Bonjour, je suis l'aîné de la famille, sa grande sœur de défunt. Je suis Fatima Aitomgar, nom de l'épouse Bougar Fatima.
Oui, bonjour à tous, je me présente, moi c'est Rachid, je suis le beau-frère du défunt Lao Xin Aitomgar.
Salut Julien, en soutien aux familles contre la répression policière qui fait partie de l'insoumise.
Donc moi Gérard, soutien à la famille de Lao Xin, voilà.
Qu'est-ce qui peut nous raconter ce qui s'est passé ce fameux jour, le jour de la mort de Lao Xin?
On peut vous dire que la version qu'on a eue, donc la version des policiers bien sûr, mon frère soi-disant il aurait braqué un hôtel. Qu'il aurait pris la fuite. La gérante de l'hôtel a appelé la police, la police, par la plaque de la voiture de mon frère, en a déduit qu'il habitait à Montigny-en-Goële. Donc ils se sont rendus à Montigny-en-Goële. Et justement, à partir de là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On sait qu'il y a plusieurs versions, il y a plusieurs versions qui ne se collent pas. Mon frère a été assassiné de 5 balles. Il avait soi-disant une paire de ciseaux. Les policiers parlent de légitime défense. Je vois pas comment il y aurait pu avoir légitime défense. Car légitime défense, on parle de légitime défense quand c'est des armes proportionnées. Or là, paire de ciseaux à arme à feu, je pense pas que c'est proportionné. Donc voilà.
Ils l'ont laissé sur la route comme un chien. Et là, tout le monde, c'est un drame énorme. Et l'on laissait toute la matinée, presque une demi-journée, jusqu'à 15 heures de l'après-midi, qu'ils ont pris en charge le défunt, malheureusement. Ce n'est pas un chien, c'est un être humain. Et malheureusement, on a brisé sa vie. Il ne mérite pas de mourir comme ça, mon frère. Je suis sa grande sœur et je l'ai élevé comme sa propre maman. Je suis désolée.
Oui, c'était pour ajouter, bon, ce jour-là, c'était pour préciser, ça s'est passé le 28 mars là, 2013, vers 11h. Ça s'est passé à 20 mètres du domicile familial. Donc vous pouvez ressentir l'émotion qu'a les parents, qu'a la famille, qu'a le voisinage, parce que ça a fait un choc sur tout le quartier, surtout Montigny, quoi. Là, aujourd'hui, nous, la famille, ainsi que le collectif et les amis qui nous soutiennent là, on décide aujourd'hui de faire ce combat là par rapport à lui, car
il ne mérite pas. Il ne mérite pas de mourir. Il ne mérite pas de mourir tel qu'on l'a tué, tout simplement. Il a encore toute sa vie devant lui. Il vient de fêter son anniversaire de 26 ans. Il est un jeune intégré en France. Il est né en France. Il a intégré. Il a son propre entreprise, auto-entrepreneur, auto. Il a combattu pour réussir sa vie, ses études. Et malheureusement, il n'a même pas encore l'occasion de se marier, ni de faire ni d'avoir sa propre petite famille. Il a encore des rêves dans la tête. Pour un jeune de cet âge-là, malheureusement, on lui a brisé sa vie. On a brisé la nôtre aussi. On y pense tous les jours. On essaye de lever la tête, d'aller vers l'avant, de faire ce qu'on peut, d'oublier, mais on est obligé de... La douleur, elle est toujours là, elle est toujours à l'intérieur de nous-mêmes. On est obligé d'aller vers l'avant, de survivre, et d'aller vers l'avant avec notre petite famille, nos enfants, nos parents. Nos parents aussi, ils ont besoin de nous. Heureusement qu'on est là, pour eux. Sans nous, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils deviendront de nos parents. Excusez-moi.
Donc voilà, cette rage, ce qu'on le dit, on a la rage, on la transforme en combat. Et pour son honneur, justement, on se bat. Et pour tout ce qui s'est passé, pour toutes les bavures que les policiers ont commises, justement, on se bat pour ça, en fait. Faut pas que... Il n'y a pas de petite justice. Faut que justice soit faite. Faut que les gens le savent, ça, en fait. On n'en parle pas assez dans les médias. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. On n'en parle pas assez dans les médias. Ça reste, voilà, quand on tourne vite la page, en fait. Ça reste un fait divers, et voilà. Mais faut le crier haut et fort, maintenant. Voilà, on en a marre.
Alors, je crois que vous vouliez nous parler aussi de la personnalité de Laoucine, hein, puisque c'est vrai que dans les médias, il était présenté comme ayant commis un braquage. Et je crois que vous vouliez nous parler de sa personnalité, et puis de cette question autour de ça.
Pour en revenir à sa personnalité, moi, étant donné que je suis le beau-frère, donc je le connaissais depuis une dizaine d'années là. Donc, si vous voulez, je l'ai connu petit à petit, quoi. J'ai appris à le connaître, quoi. Ce que je peux dire, c'est que c'était une personne simple, honnête, vivante, souriante, toujours appréciée de tous. Il faisait la fierté de ses parents. C'était un jeune auto-entrepreneur. Il avait de l'avenir devant lui. Il était ambitieux. Il n'avait aucun souci dans son entourage familial. Certes, il y a eu des petits dérapages de jeunesse, mais bon, ça. Tout le monde est passé par là, quoi. Mais de là à ce que la police salisse son honneur en disant que c'était un braqueur, un délinquant. Nous, on est la famille, on est ici pour rectifier ce tir. Ça n'a jamais été un braqueur. Tout ce qui a été dit est faux. Je ne vois pas pourquoi les médias, voilà, ils n'ont pas cherché plus de renseignements par rapport à la famille ou par rapport même à l'hôtel où tout a été l'élément déclencheur. Mais braqueur, non.
Ils manquaient de rien. Ils veulent salir parce que c'est un maghrébin, tout simplement. D'origine marocaine, je crois. Du fond du cœur, je suis sûre que ça doit être ça. On le salit parce qu'on ne veut pas le défendre.
Il ne faut pas oublier que mon père était mineur de fond. Il ne faut pas l'oublier, en fait. C'est un des métiers les plus pénibles et je pense que tout le monde le sait. Il ne faut pas oublier tout ça. Mon père est venu en France et c'est vrai qu'il a vraiment galéré. Il a galéré pour subvenir aux besoins de la famille, pour... Voilà quoi, on sait que c'est pas facile. Et voilà, après avoir travaillé pour la France autant de temps, voilà sa récompense. On lui enlève son fils. Moi je dis que c'est honteux. Franchement, c'est honteux ce qu'ils ont fait. Et Je sais même pas s'ils arrivent à se regarder dans une glace. C'est honteux.
On est toujours en compagnie de la famille de Lahousin Aït Omgar, jeune homme tué par balle par la police à Montigny-en-Goële en mars 2013, en compagnie aussi de Julien et Gérard qui les soutiennent dans leur combat.
J'imagine que vous ne savez pas comment ça s'est passé. Il y a des versions différentes aussi des différents policiers hein, qui ont pris part à cet acte. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur les différentes versions? Qu'est-ce qui vous échappe encore sur ce sujet?
Oui, alors ce n'est pas des versions différentes suivant les différents policiers. C'est la version de la police qui varie au fur et à mesure du temps. Alors, on a eu 3 versions différentes. Je ne vais pas entrer dans les expliquer chacune parce que c'est confus, parce que quelle est la bonne. Il y a maintenant même une 4e version qui serait fournie par la police, mais ce qui a été relaté dans la presse, dans les médias, ce sont les paroles de la police et du procureur. Qui, par exemple, quand même un détail assez gros, c'est que le premier jour, la police a prétendu que Lahousin avait poignardé avec les ciseaux un policier dans la poitrine. Et qu'il y avait eu beaucoup de sang qui avait coulé. Et le lendemain, c'est à partir de là que moi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le lendemain, on apprend dans le journal qu'en fait, le policier, il avait un gilet pare-balles, que donc il n'a pas du tout été blessé à la poitrine. Donc voilà, une des contradictions évidentes. Quoi. Pourquoi est-ce que la police a fourni comme ça différentes versions? Bon, c'est à la justice de fournir la vérité là-dessus, et c'est bien ce qu'on veut, obtenir la vérité et la justice.
Bah, si vous voulez, pour avoir plus de précision, c'est que... Le jour du drame, Lahousin Aït Omgar avait séjourné dans un hôtel à Cambrai et que sur lui-même, sur soi, il avait en possession cette somme. Ces 20 000 euros-là, c'est à lui, ça lui appartient, c'est de son compte, c'est les fruits de son labeur. Parce que comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, il était auto-entrepreneur. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que lui, le matin du 28... Je pense qu'il a dû réclamer son argent, parce que bon, je pense qu'il n'a pas dû apprécier la nuit qu'il a passée à l'hôtel. Suite à ça, bon, il s'est, je pense, un peu emporté avec l'hôtesse. Et il est parti, sans faire de braquage, sans rien prendre. Il est parti, il a pris son véhicule et il est parti. Les médias ont insisté beaucoup sur le fait de dire que c'était un braqueur. C'est facile de dire un braqueur, vu que c'était... C'est un jeune issu de l'immigration, donc voilà quoi, automatiquement l'étiquette elle est déjà collée sur vous. Je répète, c'est pas un braquage qu'il a fait. Les 20 000 euros, c'est ses 20 000 euros à lui. Il les a retirés de son compte pour pouvoir acheter des véhicules, vu qu'il est auto-entrepreneur dans l'automobile. Je tiens bien à préciser que non, ça n'a pas été un braquage.
Oui, peut-être bien préciser sur cette histoire de braquage qui n'a pas eu lieu du tout. En fait, comment on sait que ça n'a pas eu lieu? C'est parce que la réceptionniste de l'hôtel donc, a déclaré que Lahousin avait réclamé son argent. Il a dit « donnez-moi mon argent ». Il n'a pas dit « donnez-moi la caisse, donnez-moi mon argent ». C'est-à-dire qu'il voulait récupérer l'argent de sa chambre parce qu'il n'était pas content de ce qui était, enfin, la qualité de la chambre. Voilà. Bon, ensuite, Lahousin donc s'en va, puisque la réceptionniste lui dit « Bah écoutez, j'ai pas d'argent, elle n'avait plus d'argent dans la caisse, parce que l'argent avait été emmené par le veilleur de nuit, enfin bref. » Et donc, Lahousin s'en va, et la réceptionniste n'appelle pas la police. Hein. Ce n'est qu'une heure et demie, 2 heures plus tard, que la gérante de l'hôtel arrive, donc la réceptionniste lui raconte cette histoire, quoi. Et puis là, la gérante, qui se trouve être d'ailleurs la mère de la réceptionniste, peut-être ça joue, hein, la gérante dit « mais si, tu as été victime d'une tentative de braquage, il faut appeler la police, voilà ». Mais la réceptionniste elle-même, qui avait vécu les événements, ne voyait pas matière à appeler la police. Voilà. Et à partir de ce non-événement, quelqu'un est mort, quoi. Hein. Sur les 20 000 euros aussi, on a la preuve que c'est bien son argent, parce qu'on a les preuves qu'il est allé à la banque la veille retirer 20 000 euros. Quoi. Donc voilà, c'est son argent. Parce que là aussi, il y a eu des rumeurs qui ont couru. Tout a été fait pour le salir. Hein. Voilà, moi-même le premier jour, qu'est-ce que j'ai entendu à la radio? J'ai entendu quelqu'un qui a effectué une tentative de braquage a été tué par la police. Bon, bah, une histoire comme ça, bon, vous dressez l'oreille, mais c'est tout. Quoi, c'est bon, et voilà, il a essayé de faire un braquage, il a été tué, puis c'est tout. Ça se résumait à ça. Et la plupart des gens se sont arrêtés là, et voilà, cette histoire est oubliée. Hein. Alors que si on creuse un tout petit peu, ben, on s'aperçoit de tout ce qu'on vient vous raconter là. En fait,
la presse n'a quasiment pas fait d'enquête. On est allé voir un journaliste d'un grand média local, à Hénin Beaumont, et qui nous a dit « Mais pourquoi voulez-vous enquêter là-dessus ?» Voilà, on n'a pas fait d'enquête, on a juste repris ce que la police nous transmettait comme message, c'est tout.
La réaction après la mort de Laoucine, au niveau du quartier, ça a été de la colère des gens, des jeunes, et puis aussi du côté de la police, une pression exercée sur les habitants. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces jours-là ?
Oui, suite à ça, il y a eu des émeutes dans le quartier. Et la colère des gens, voilà, elle a explosé. Il y a eu des émeutes, mais je trouve que dans les médias, ils ont plus parlé des émeutes que de l'affaire de mon frère, en fait. Ils sont plus passés par là. Je voudrais parler aussi des policiers qui contrôlaient ce jour-là. Parce que la nuit, les policiers tournaient dans le quartier, ils contrôlaient des jeunes. Il y a un policier qui a dit justement aux jeunes du quartier, il lui a dit « J'aurais voulu être à la place de celui qui a tiré sur ton copain. » Franchement, c'est des paroles qui font froid dans le dos. C'est inadmissible d'entendre ça, surtout de la part d'un policier qui est censé protéger, qui est censé sécuriser, qui est censé... Je sais pas. Franchement, j'ai vraiment du dégoût, de la haine. J'ai pas peur de le dire, j'ai vraiment de la haine. Pas envers tous les policiers, mais franchement, j'ai plus confiance. Plus confiance aux policiers.
Ça s'est passé un petit peu le soutien à votre famille pour essayer de savoir ce qui s'était passé.
C'est vrai, on avait besoin de soutien justement après le drame. On savait plus vers qui se diriger. Franchement, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Amal Bentounsi, qui fait partie du collectif Notre Police Urgence Assassine, est venu chez nous. On l'a accueilli et suite à ça, elle nous a aidé à combattre justement. Elle nous a aidé à nous rendre plus forts. Et il n'y a pas que elle, il y a aussi tous les amis, la famille, ceux qui font partie de l'Insoumise. Par exemple, je peux parler de Julien, de Anna, de Gérard. Franchement, ils sont présents et je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent parce que c'est vraiment pas facile. C'est un très long combat, très dur, et il ne faut pas baisser les bras. Et grâce à ces gens-là, on reste plus fort et on monte, et on se bat.
On monte la pente grâce à eux. Ils nous soutiennent, ils nous orientent. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que nous sommes là, en témoignant concernant cette affaire de mon frère. C'est grâce à eux, sans ça, nous, tout seuls, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas savoir vers qui s'orienter, tout simplement. Heureusement qu'ils sont là, et j'espère qu'ils seront là jusqu'au bout pour nous, on espère.
Comment ça s'est passé ? Donc vous avez déposé plainte, vous êtes constitué partie civile. Comment ça se passe dans ces cas-là, en fait ?
Le jour du drame, la matinée même... Ils ont pris l'avocat du Pont-Morotier et Benoît Cosa.
Bah, suite à ce drame, oui, c'est sûr, on a décidé de porter plainte et on s'est pris partie civile pour mettre en cause ces trois agences, parce que c'était trois policiers là. Donc le jugement est en cours. Donc voilà, l'affaire n'est pas finie. On attend le suivi, quoi. On attend le suivi, le déroulement, comment ça va se passer, quoi.
Juste à rajouter une petite remarque, j'ai constaté dans les autopsies, les trois policiers, ils n'ont même pas encore atteint les 30 ans de leur anniversaire. Ils ont à peu près le même âge que mon frère, entre 24, 25, 26 ans. Et aussi, leur expérience aussi joue sur le drame. S'ils ont plus d'expérience, je ne crois pas qu'ils vont faire ce drame.
Je tiens à dire que l'enquête a été bâclée parce qu'après un an de ça, l'enquête va être fermée. La justice, pour moi, n'a pas fait son travail. Elle n'a pas été... Justement, il y a plein de choses qui ne collent pas et elle n'a pas été creusée dans ce côté-là, en fait. Et c'est pour ça qu'on se bat, justement. C'est pour ça qu'on fait un rassemblement le 14 mai à 14h30 devant le tribunal de grande instance à Béthune. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde, donc venez nombreux, parce que certes, c'est un hommage à mon frère et aussi pour que la justice bouge un peu, mais c'est aussi un hommage à toutes les bavures policières, à tous ceux qui ont subi des bavures, à toutes les familles victimes.
Je crois que vous voulez aussi parler de d'autres cas de violence dans le quartier, en fait, donc à Montigny en Goëlle.
En moins de 10 ans, c'est la troisième personne qui a été tuée par la police. Peut-être que je suis parano, mais pour moi, il me semble que... Et surtout que c'est des gens issus de l'immigration, en fait. Pourquoi ? Beaucoup de questions sans réponse. Et franchement, ces histoires, elles ont passé inaperçues. Et c'est fini, tout ça. Il faut en parler, il faut en discuter. Et il faut se battre pour ça. Il ne faut pas avoir peur de... La justice, il faut en parler. Il n'y a pas de petite justice. Voilà, quoi. Il faut se battre pour ça. Et c'est pour ça qu'on... On se soude les coudes et on se bat.
Donc là, c'est au niveau local, mais au niveau régional et même national, il y a beaucoup de familles dans votre situation qui se posent des questions autour de mort de leurs proches. Et donc là, on peut parler aussi peut-être d'autres cas et puis d'autres collectifs qui sont montés autour de ces questions.
On peut commencer peut-être par l'histoire la plus connue sur l'île, c'est l'histoire de Riyad Amlaoui. Il s'est fait tuer il y a une dizaine d'années alors qu'il était dans sa voiture avec un ami. Il s'est fait tuer d'une balle dans la tête par un policier. L'enquête a duré des années pour finir par du sursis et pas de licenciement de l'agent de police. Il est toujours là, il a été réintégré dans le même quartier. Ensuite, une affaire qui est toujours en cours, c'est l'affaire de Hakim Jelassi, un habitant de Winston Churchill. Qui était dans un hôtel dans le centre-ville. Police Secours intervient pour une affaire de tapage nocturne. Il rentre en vie dans le camion, il sort mort. Alors pareil, toujours la même histoire, hein, c'est on salit la personne, on fait croire qu'elle est morte d'une overdose, sauf que l'autopsie révèle qu'il est mort de plusieurs coups, le foie éclaté, la rate éclatée, des choses comme ça. Voilà, c'est ce genre d'histoire, ça c'est au niveau vraiment local, mais ça se produit vraiment partout, et des gens s'organisent. Par exemple, là, le samedi 5 avril dernier, il y a eu une manif qui n'a pas lieu souvent. C'est une grande commémoration nationale en hommage aux victimes de la police et contre la répression policière. Donc vous pouvez voir plusieurs collectifs, dont Urgence Notre Police Assassine, qui regroupe toutes les familles qui ont perdu quelqu'un suite à des violences policières. Donc on peut, il y a par exemple Amal Bentoussi qui a perdu son petit frère Amin d'une balle dans le dos à Noisy-le-Sec. Il y a Farid El Yamni qui a perdu son frère à Clermont-Ferrand le jour de Nouvel An, qui s'est fait tabasser par plusieurs policiers et qui en est mort. Il y a aussi la famille de Laoussine qui est présente dans le collectif. Il y a aussi la famille d'Ali Ziri, un chauffeur routier qui a subi un étranglement jusqu'à la mort lors d'un contrôle routier. Voilà, c'est toutes ces familles qui se rassemblent et qui en ce moment s'organisent pour lutter. Alors, un point assez important, c'est que la justice met beaucoup de temps à attaquer les policiers coupables, mais met très peu de temps à attaquer les familles qui s'organisent et qui essaient de se défendre. C'est l'exemple, par exemple, de Amal Bentoussi. Dans son site, elle avait fait une petite vidéo qui se moquait de la police, qui disait, en gros, si vous êtes violent, si vous êtes raciste, si vous voulez vous faire de l'argent grâce à des outrages, si vous voulez en plus être protégé par la justice, rejoignez la police nationale. Donc cette vidéo qu'elle avait fait un soir où elle avait la rage, s'est retrouvée attaquée en justice pour diffamation envers la police par Manuel Valls. Le procès a eu lieu le lundi 7 avril, donc bon, le procès était très bien organisé, les familles se sont organisées, il y a eu des témoignages, c'était vraiment un procès bien tenu. Et même la procureure demandait la relaxe, donc je pense que là-dessus ça va tomber. Alors on va parler aussi de l'histoire de Hakim Hajimi qui a été tué par la police à Grasse. La justice a été moins rapide pour juger les policiers que les familles qui, lors d'une manifestation, ont eu quelques échanges verbaux un peu normal, hein, pleines de rage envers la police. La police porte plainte pour diffamation et ces mêmes gens, ce collectif Vérité et Justice, va avoir quasiment le même verdict que les policiers qui ont tiré sur Hakim. Ce sera des mois de sursis et une amende. C'est pour dire, on tue quelqu'un, on tue ce jeune Hakim Hajimi, les policiers prennent du sursis, les gens s'organisent et sont attaqués en justice pour diffamation envers la police et ont les mêmes peines. Donc c'est ça actuellement l'état de la police et de la justice en France. La justice protège clairement ses policiers. Elle les tient, ils sont maintenus, quand ils vont un peu trop loin, ou même quand on leur donne clairement l'ordre de faire ce qu'ils veulent dans certains quartiers ou dans certaines cités, ils sont protégés et ont au maximum, quand les familles s'organisent, quelques mois de sursis. C'est très très rare sur les 300 cas recensés par Mathieu Rigouste en 30 ans, qu'on voit jamais de ferme ou même de suspension.
Mathieu Rigouste, c'est...
Mathieu Rigouste, c'est un chercheur, un sociologue, et qui bosse beaucoup sur la police et la domination policière.
Peut-être avec la famille, on peut parler de votre rapport, des échanges que vous avez pu avoir avec la police ou la justice. Est-ce qu'à un moment, ils ont essayé de vous empêcher justement de porter plainte, ou comment ça s'est passé un petit peu ça
Non, pas à ce point-là, mais c'est juste par rapport à l'enquête, en fait. Ils essayent clairement de nous déstabiliser en nous disant que ça ne sert à rien de se battre parce qu'à la fin... C'est de la légitime défense et ça sert à rien de se battre, baisser les bras tout de suite, en fait. Voilà, quoi. C'est ce genre de pression qu'on a. C'est ce qui porte à croire qu'il ne faut pas lâcher. Il cache quelque chose derrière et justement, c'est ce qu'il cache qu'on essaye de faire montrer, tout simplement. Donc voilà.
Vous avez entendu lors de ce reportage Mustapha, Fadma et Rachid, qui font partie de la famille de Laoussi Naït Omgar, et aussi Julien et Gérard, qui les soutiennent dans leur combat. Je vous rappelle le rendez-vous de la manifestation organisée en hommage à Laoussi, tué par balle par la police à Montigny-en-Goël en mars 2013. Donc c'est le mercredi 14 mai 2014 à 14h30. Rendez-vous devant le tribunal de grande instance de Béthune. Après la manifestation, un temps convivial d'échange et de discussion sera organisé avec la famille et puis différents collectifs régionaux et nationaux à Montigny-en-Goël dans une salle polyvalente. Pour en savoir plus, un site internet, celui de Urgence Notre Police Assassine. Sur Facebook, il y a un groupe Justice pour Laoussi. Mais le plus simple, c'est encore d'aller directement à la manif ce mercredi 14 mai à Béthune.
Leurs joues sont rouges, sang de vin, bière ou pastis. Besoin de renfort, n'appelle pas la police. Zéro confiance en ce système ainsi qu'en sa justice. Raciste profond, cellule grise en option. Passage à tabac comme passion, friand de baston. Armé des fous furieux pour protéger la populace. Au garde, c'est nous en France, pâté sec ou Manuel Valls. Des hommes pourvus de pouvoir et qui abusent de celui-ci. Corruption, bavure, violence puis amnistie. Mes gens haïssent les flics car ils n'ont rien d'altruiste. Même cette carte de Julie Lescaut dans la vie est une fasciste. Ces personnes qui nous punissent elles-mêmes ont les pires vices. Parler de sécurité est devenu trop utopiste. Marre de voir l'uniforme avoir bon rôle dans ma télé. Faire régner l'ordre aux clés, dans ce cas-là, abattez-les. Claudio Castagneta, Ben Matson, Quilem Registre, Gladys Tolé, Freddy Villanueva, Aïssa Cheraga, Edouard Mazé, Hamid Bentoussi, Gilles Totin, Karim Ramdani, Christian Dovero, Ahmed Selmouni, Abdelhakim Hajimi, Laoussi Naït Omar. Et toutes les victimes du pouvoir. Et toutes les victimes.